9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour camarades auditrices et auditeurs, Maître Serran est ravi de vous retrouver de 9h à 10h pour répondre à vos questions de droit. Alors je sais qu'une heure c'est beaucoup trop court, d'ailleurs souvent les auditeurs, mon cher Philippe, me disent qu'ils appellent et qu'ils attendent longtemps, trop longtemps jusqu'à ce que l'émission se termine et donc impossible de passer à l'antenne, d'où frustration. Mais pas de panique les amis, vous savez qu'après l'émission, vous pouvez toujours me contacter directement sur mon portable que je vous communiquerai au cours de cette émission. Mais avant d'avoir le plaisir de vous écouter, évoquons l'actualité de la semaine. Et d'abord une actualité qui me fait dire, si on ne l'avait pas deviné, que manifestement la France se droitise fortement, voire même s'extrême droitise. Le résultat est donc tombé hier concernant la primaire de la droite et les finalistes sont Valérie Pécresse, dont une grande partie de son programme concerne les étrangers, et Éric Ciotti qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne voyait pas d'inconvénient à s'allier avec celui qui pourrait faire passer Marine Le Pen comme la chef de file d'un parti de gauche, M. Éric Zemmour. Lequel Éric Zemmour nous a fait cette semaine une déclaration à la De Gaulle, mais n'est pas De Gaulle qui veut, c'est plutôt un ersatz de De Gaulle. Alors, il a expliqué qu'il serait le président de tous les Français et même ceux de confession musulmane. Et là, je me suis dit, tiens, le type s'est quand même souvenu de ses racines profondes de juifs d'Algérie. Et on sait qu'il y a beaucoup de points communs entre les musulmans et les juifs d'Algérie. On a une culture commune, mais soudain la phrase de trop. Il a appelé tous les musulmans à s'assimiler. Allez, pourquoi pas ? Mais surtout à renoncer à la pratique de l'islam. Et il a déclaré qu'il y aurait, selon lui, beaucoup de musulmans qui peuvent entendre ce discours. Alors, s'il y a parmi nos auditeurs, mon cher Philippe, des musulmans qui sont prêts à entendre ce discours et donc à renoncer à la pratique de l'islam, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Ce qui est inquiétant, c'est que le type devait faire un meeting au Zénith de Paris et il a changé à la dernière seconde pour aller au parc des expositions de Villepinte. Le Zénith était, paraît-il, trop petit. Il faut croire que les racistes prolifèrent dans ce pays. De toute manière, quel que soit le gagnant de la prochaine présidentielle, sachez que la France sera beaucoup moins douce avec ses étrangers. Décidément, l'ambiance dans ce pays me donne, mon cher Philippe, presque l'envie d'aller vivre en Algérie, voire même de me présenter aux élections municipales de Razaouet.
Ah, c'est pour vous dire.
Bon, d'accord, c'est vrai, je dis ça sous le coup de l'émotion. C'est un projet lointain, très très lointain, mais le temps que je fomente ce projet, je vais vous inviter à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions et missions, comme toutes les émissions, sous le contrôle de celui qui ressemble de plus en plus au Père Noël. Alors les auditeurs, évidemment, ne vous voient pas, mon cher Philippe, mais moi je l'atteste, physiquement vous lui ressemblez de plus en plus. Alors, à vous Père Noël.
Bien, Maître Serran, alors vous allez bien sûr aller voter aux élections présidentielles
pour
affirmer et afficher votre différence.
Absolument pas. Je ne vote jamais.
C'est pour empêcher tous ces affreux d'arriver au pouvoir.
Je sais bien, mais depuis vraiment le dernier vote dont je me souviens, c'était à l'époque où Mitterrand c'était,
était président. Ah oui, d'accord. Alors c'était premier mandat ou deuxième? Non, premier mandat, vous étiez trop jeune.
Non, c'était
81.
C'était deuxième 88. Mandat. Mais et depuis, je n'ai plus jamais voté. Je ne sais pas où se trouve ma carte d'électeur. Je ne sais même plus.
On va demander à Madame Serran où elle l'a rangée. De toute façon, on en reçoit quand même une de temps en temps, une carte d'électeur.
Bah écoutez, alors moi je ne sais pas, comme j'ai déménagé plusieurs fois.
Ah, ça va être ça. Bah il faut aller à la mairie.
Ouais, je sais bien. Ouais,
je vais vous accompagner, Maître Serran.
Mais je ne vote pas et j'ai refilé ce virus à tous les membres de ma famille. Parce que rien que nous, on pourrait avoir au moins 10 votes.
Déjà, donc. Au moins. Ça permettrait de faire pencher les choses.
Ouais. Mais non, je ne vote pas.
Ouais. Bon, Maître Serran, alors un sujet qui m'a interpellé, puisque vous nous soumettez ce matin une question de droit du travail. Est-ce qu'un chef d'entreprise a le droit de laisser un salarié donc dans son entreprise sans lui fournir du travail? Et donc finalement, est-ce que un patron qui paye quelqu'un régulièrement tous les mois a le droit de le payer à ne rien faire?
Alors ça, c'est une question assez particulière.
Sauf à Beurre FM, je mets entre parenthèses.
Alors, d'abord, je signale que le sujet n'a pas été choisi par rapport à la radio.
Ah bon, vous me rassurez.
Non, absolument pas. Mais c'est vrai, c'est une question qui peut sembler curieuse et particulière.
Non, mais c'est curieux, c'est-à-dire, quel serait l'intérêt d'un patron de payer quelqu'un à ne rien faire?
On est entièrement d'accord, c'est-à-dire que ça pourrait être le bonheur de beaucoup de salariés.
Je vous confirme.
Voilà, en disant, tant que je suis payé à la limite et je joue le planqué, pourquoi pas? Sauf que moi, j'ai reçu une personne qui était extrêmement déprimée parce que c'est une personne qui gagne correctement sa vie. Comme dirais-je, je ne dévoile pas le secret parce que je ne donne pas le nom, mais il perçoit un salaire mensuel de 3 500 euros. Et depuis un chef de chantier, et depuis quasiment un an et demi, cette personne n'a pas de travail. On ne lui met plus à disposition une équipe, et on ne prend plus, entre guillemets, de ses nouvelles sur un plan professionnel, mais il continue de toucher son salaire. Alors, il doit se présenter au sein de la société, c'est-à-dire qu'il reste pas...
Donc, il fait acte de présence.
Ah oui, voilà,
il n'est pas payé à rien faire chez lui.
Voilà. Non, mais il doit venir, il vient avec sa petite sacoche, et puis il repart en fin de journée.
Et il va où? Parce que par définition, un chef de chantier, peut-être que ça va aussi sur les chantiers.
En principe, le chef de chantier, par définition, comme vous dites, va sur les chantiers, mais là, il reste dans son bureau, il a un ordinateur avec un vieux logiciel, donc de toute manière, il ne peut même pas accéder même pas envoyer des mails, donc il obligé d'utiliser son téléphone, mais pas des mails professionnels, c'est-à-dire des mails à titre privé. Donc, c'est vrai, curieusement, encore une fois, ça peut sembler presque pour certains la vie idéale, et pourquoi pas, ce type-là donc s'est mis à déprimer et est venu me consulter pour voir si, d'abord, est-ce que c'était normal d'être payé. Alors, même moi, je trouvais ça assez
surprenant. Quand on regarde les textes, parce que j'ai regardé les textes comme vous, Maître Serran, est-ce qu'un employeur a l'obligation de fournir du travail à un salarié qu'il paye?
Mais c'est la contrepartie, comme dirait l'autre, entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire que je suis le patron, je dois fournir un travail, je dois vous fournir une mission, je dois vous fournir une activité.
Attention, votre micro, vous avez touché le fil de votre micro, on ne vous entend plus. Voilà, très bien.
C'est bon?
Vous ne touchez plus.
Alors, je ne touche plus.
Donc, la contrepartie?
La contrepartie du travail que moi, employeur, je vous fournis, c'est que vous devez l'exécuter. Et l'exécuter en toute bonne foi. Mais cette notion de bonne foi, on l'entend souvent, elle est souvent invoquée par des patrons à l'égard des salariés en disant « mon salarié n'exécute pas son contrat de travail en toute bonne foi ». C'est-à-dire qu'il joue un peu, pardon pour le terme pas joli, le glandeur, ou il fait en sorte de pas comprendre ce que je lui dis. Mais cette notion de bonne foi est réciproque. C'est-à-dire que le patron doit également vous fournir des missions, doit également vous fournir un travail. Et si vous constatez que le travail n'est pas fourni, c'est-à-dire vous vous présentez, encore une fois, il ne s'agit pas de rester à la maison, mais vous vous présentez sur votre lieu de travail et que toute la journée, vous ne faites rien et vous n'avez pas de fiche de mission, alors vous pouvez faire en sorte de vous en contenter, pourquoi pas, puisque en qualité de salarié, vous n'êtes pas fautif, le travail ne vous est pas fourni, mais vous avez aussi la possibilité d'exiger de votre employeur qu'il vous fournisse ce travail, qu'il vous fournisse cette mission.
Mais s'il n'y en a pas?
Non, alors c'est pas s'il y en a pas. C'est-à-dire que quand il y en a pas,
oui,
il peut ne pas y en avoir. Mais
il y a des jours où parfois il n'y a rien à faire.
D'accord. Il y a des jours où il n'y a rien à faire. Il y a des sociétés, effectivement.
Non, mais ça, je peux vous assurer, j'ai vécu des sociétés où subitement vous passez du trop de travail à pas de travail.
Mais ça, on peut le comprendre. Donc, voilà. Après, ça fait partie du management d'une société. C'est-à-dire, comme vous dites, parfois il y a des périodes où il y a un excès de boulot et puis il y a des périodes plus calmes. Mais il y a calme et calme. C'est-à-dire que si sur une période, on va dire, mais ne serait-ce que d'une semaine, 10 jours, mais là, pour l'intéressé, on est sur plusieurs mois où on vous fournit aucun travail, alors que les collègues continuent
de bosser. Voilà, c'est ça la problématique.
Truc, c'est ça, c'est-à-dire que bon, si toute la société s'arrête, la société s'arrête. Mais la difficulté, c'est que vous êtes ciblé. Et vous voyez bien que tout le monde bosse, tout le monde circule, et vous êtes le seul dans votre coin à ne rien faire. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous considérez qu'on n'est plus dans le normal, vous avez la possibilité, alors d'abord, avant la création d'un éventuel conflit, d'interpeller le patron. Alors moi je conseille toujours, même si on me dit mais je le croise dans les couloirs, de confirmer ça par écrit, comme ça c'est carré et on sait que vous l'avez officiellement informé de la situation. Et si malgré ça, alors il n'y a même pas d'entretien pour essayer d'expliquer ce qui se passe, ou si malgré l'entretien, le type vous laisse de côté, vous n'avez toujours pas de boulot, à charge pour vous, si vous le souhaitez, de mettre fin à ce contrat de travail. Alors, vous pouvez mettre fin à ce contrat de travail, je le redis, si vous êtes affecté, mais si vous êtes heureux d'être payé à rien faire, ce qui peut exister, je vous invite évidemment à rester tel que, mais si vous voulez aller jusqu'au bout et si vous ne supportez plus cette ambiance d'être mis de côté, puisqu'il faut comprendre que c'est aussi ça le truc.
Bah, ça ressemble un peu à une mise au placard, hein,
c'est,
votre histoire.
On y aboutit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous exclut artificiellement de la société, eh ben les collègues, c'est la même chose, vont également faire en sorte d'avoir des liens un peu plus distendus avec vous. Donc oui, on finit par vous mettre complètement de côté. Vous finissez aussi comme ce pauvre client par avoir des problèmes de santé, c'est-à-dire par déprimer. Donc si vraiment vous en êtes là et vous ne supportez pas la situation, vous pouvez faire appel. Alors encore une fois, on essaie toujours de régler le problème à l'amiable et donc au moins une trace écrite, mais vous pouvez toujours faire appel au conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme peut être saisi en urgence, c'est une procédure de référé. Après, il y a deux choses, c'est-à-dire que le conseil de prud'homme peut interpréter la chose en disant non, il y a quand même un minimum de boulot fourni, mais vous pouvez vous-même psychologiquement avoir l'impression qu'on vous fournit rien, mais le conseil de prud'homme peut avoir une autre interprétation, et s'il a une autre interprétation, les dommages et intérêts que vous sollicitez ne vous seront pas attribués, et ils peuvent rompre le contrat en disant que ce n'est pas à cause de la société, mais c'est à cause de vous. Donc là, à la fin, le coup de gourdin, c'est vous qui le recevez. Mais le conseil de prud'homme peut évidemment constater que vos déclarations correspondent donc à une réalité, et si vos déclarations correspondent à une réalité, la société sera condamnée à des dommages et intérêts. Il y aura une rupture du contrat, mais vous allez obtenir tous les dédommagements, les montants qui sont dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que on peut, voyez, vous disiez, mais si l'activité est ralentie, donc faut faire attention à ça. Si l'activité est ralentie, dont acte. Vous n'êtes pas ciblé. Là, on parle de personnes qui sont ciblées.
Oui, parce que les autres ont du travail et que lui, il n'en a pas.
Bah voilà, mais en fait, quand c'est comme ça, il n'y a pas de mystère. C'est qu'à un moment, votre patron, votre salarié a envie de vous dégager gentiment. Alors, il veut pas vous licencier tel que parce que ça peut lui coûter des sous. Mais il essaie de vous pousser soit à la faute, c'est-à-dire vous pouvez avoir une mauvaise réaction et puis dire attendez, il s'est comporté comme un sauvage ce salarié, donc on a une faute de la part du salarié. Soit vous poussez à la démission, puisqu'à partir du moment où vous démissionnez, c'est banco pour la société, donc il n'aura pas à vous indemniser. En règle générale, quand on a des personnes qui sont concernées dans ce genre de situation, ce sont des personnes qui ont déjà un certain nombre de boîtes et d'années de boîtes au sein de la société.
Alors après, il y a des questions d'indemnité de départ.
Oui. Voilà, donc c'est sûr que je préfère, moi, patron de mauvaise foi, vous pousser à bout pour une éventuelle démission, pour une éventuelle faute de votre part, puisque ça coûtera évidemment moins cher à ma société. Donc ce sont pas des petits jeunes qui viennent d'arriver. Donc ce sont des types qui ont déjà une barbe blanche et qui sont au sein d'une société depuis un certain nombre d'années. Donc le Père Noël est peut-être concerné par ça.
Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Une des obligations de votre employeur, c'est de vous rémunérer, au moins une fois par mois. Mais donc une autre de ses obligations, c'est de vous fournir du travail. L'employeur ne pourrait pas vous payer à ne rien faire. Ça, payez, c'est pas possible.
Non, vous payer à rien faire, ce serait pas possible.
C'est pas en son pouvoir de dire tiens, j'embauche quelqu'un pour qu'il fasse rien.
Ben non, il y a une contrepartie. Encore une fois, c'est un contrat. C'est-à-dire que je vais vous payer pourquoi ? Ben, si je vous paye simplement pour venir me regarder. J'ai pas le droit, c'est-à-dire que ça pourrait même éventuellement être considéré peut-être comme un abus et comme quoi vous profitez de l'argent de la société. Pourquoi je vais vous rémunérer en échange de rien? L'affaire Fillon, quand il rémunère son épouse. Alors lui dit qu'elle a travaillé, donc effectivement, je crois qu'elle avait sorti un gros pavé de 2 pages, mais on lui reproche quoi ? On lui reproche d'avoir rémunéré cette femme en échange de rien. On a reproché également à cette femme qui sera intervenue auprès de...
Oui, mais là, c'était l'argent du contribuable.
Oui, mais quand bien même... Non, mais l'argent d'une société n'est pas l'argent du gérant ou l'argent...
C'est ça qu'il faut comprendre.
Ah bah oui, oui non, mais voilà. C'est ça, c'est-à-dire que... C'est l'argent de ce qu'on appelle en droit la personne morale. C'est-à-dire que si vous utilisez l'argent de votre boîte qui rentre sans que ce soit votre rémunération, mais vous l'utilisez et vous faites une confusion, comme on dit, de patrimoine. C'est-à-dire, vous l'utilisez comme si c'était votre entre guillemets argent propre. Alors, je sais qu'intellectuellement, ça peut être curieux à comprendre, mais c'est une réalité juridique. Ben, vous êtes en faute. C'est-à-dire, vous pouvez, vous vous rémunérez, vous avez votre salaire, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous puisez dans les réserves de la société, cet argent n'est pas à vous, il est à la société.
Et donc, Maître Serran est rémunéré, mais pour travailler, hein, vous le constatez donc tous les vendredis. Et si vous avez des questions juridiques à lui poser, eh bien, vous composez le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et votre bien dévoué Maître Mourad Serran qui est avec vous et qui répond à vos questions, 01 53 48 3000. Alors, Kaltoum est avec nous. Kaltoum, bienvenue.
Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, je désire savoir des renseignements concernant la situation ainsi que celle de mon époux. Alors, on se trouve en France depuis 6 ans, on oui. est à régulier et tout, mais le souci qu'on a que des récépissés à chaque fois, ils ne fournissent que des récépissés. Alors, moi, j'étais au premier temps, j'étais en état scientifique et mon époux en conjoint scientifique, mais dès la deuxième année, il a changé de statut, il est passé à un salarié. Et du coup, ils lui ont réclamé des documents qui sont propres à l'entreprise, là où il travaille. À vrai dire, ça traînait un petit peu. Direct, à chaque fois, elle refusait. Après, ils ont remis les documents. Il y a toujours des soucis. Ils disent que le salaire n'est pas suffisant. Sinon, il y a beaucoup de demandes de postes pour...
Il exerce en qualité de quoi, Kaltoum, votre mari?
Alors, il est en agent de sécurité, mon époux.
Ouais, alors le... La réponse qui vous est apportée n'est pas surprenante. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à être régularisé en qualité de salarié, on va évidemment étudier ce qu'on appelle la tension dans la fonction concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que dans tel ou tel domaine de compétences, je sais pas, vous dites je travaille dans une boulangerie comme vendeur, en agent de sécurité ou autre, on va vérifier si dans la région où se trouve votre mari, s'il y a une vraie demande d'agents de sécurité. Donc ça va dépendre beaucoup de ça. Si ce sont des activités professionnelles où il y a beaucoup de demandes, alors quand je dis demande, c'est quoi? Ce sont d'abord les personnes de nationalité française, ensuite les personnes en situation régulière, et après seulement les personnes qui souhaitent être régularisées seront prises en considération. Mais si c'est un secteur où il y a déjà... pléthore de demandeurs, on peut effectivement lui rétorquer que dans ce domaine, il y a déjà suffisamment de personnes et donc lui refuser une régularisation en qualité de salarié.
C'est normal, mais à vrai dire, quand il était inscrit à Pôle emploi, on avait beaucoup d'offres. À chaque fois, ils nous envoyaient des
ouais.
Et c'est vrai, c'est quand on a vu sur certaines entreprises, ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre concernant la sécurité, la prévention.
C'est un secteur en tension, là.
Surtout avec ces histoires de Covid et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Mais après, ça... Alors, d'abord, est-ce que vous avez une réponse écrite de la part de la préfecture pour vous dire, écoutez, on ne veut pas pour telle ou telle raison ou pas?
Non, pas du tout, c'est ça. À chaque fois, elle nous renvoie vers direct. Direct, il nous dit que ça va, c'est-à-dire que ça va pour cette fois-ci. Sinon, des fois, il dit que c'est un petit peu le dossier, il était remis à un petit peu en retard. C'est-à-dire, il y a toujours une excuse. Mais ces derniers temps, là, ça fait ces deux dernières fois, ils ont carrément refusé de renouveler le récépissé. Mais après quelques jours, j'ai écrit un courrier destiné à monsieur le préfet. À vrai dire, après, ils nous ont envoyé un rendez-vous. Mais après, on s'est demandé auprès direct, est-ce qu'on est passé à salarié? Ils ne savent pas. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Même à la préfecture, quand son employeur il s'est déplacé à la préfecture pour demander est-ce que réellement il se trouve toujours dans cette situation, ils lui ont dit non, à vrai dire, il n'a pas cette situation. Voilà, il n'y a pas une réponse vraiment bien claire.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... Bon, vous me dites d'abord, dans un premier temps, Alors attendez, je crois qu'il y a un micro. Ouais. Ah, décidément, alors attendez, ouais. Je vais pousser le livre. Donc vous me dites qu'il y a eu d'abord un refus de renouvellement de son récépissé, on est d'accord?
Oui, c'est les deux dernières fois.
Voilà, donc ça veut dire qu'au moment où on se parle, pour l'instant, donc il n'a pas de récépissé, il n'a rien. Il est, j'allais dire, officiellement en situation irrégulière.
Non, non. Après, je vous ai dit que...
Mais après, lui, on redonnait un récépissé?
Voilà.
D'accord, voilà.
Il lui a donné un rendez-vous. Après, il a eu l'avant-dernier récépissé.
D'accord. Donc, au moment où on se parle...
Une deuxième fois encore.
Voilà, le récépissé, là, pour l'instant, il est toujours d'actualité.
Exactement, oui, c'est ça.
Alors... j'allais dire, tant que le récépissé est toujours d'actualité, évidemment, on ne peut préjuger de rien. C'est-à-dire, le propre d'un récépissé, c'est de dire que les autorités préfectorales sont en train d'examiner votre dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de recours. On ne peut pas interdire à une préfecture, et c'est même souhaitable qu'elle remette un récépissé, mais moi, j'ai souvent des clients qui me disent, c'est le deuxième, troisième, quatrième récépissé, qu'est-ce qu'on peut faire? En vérité, à ce stade-là, rien. Puisque le récépissé, je le redis, d'abord, ça vous permet de rester sur le territoire français en situation régulière, et vous pouvez pas saisir la préfecture en disant, écoutez, il y en a marre de vous récépisser, régularisez-moi. Parce que d'abord, là, il pourrait dire, bon, bah, s'il est pressé, on va lui donner une réponse négative. Donc à ce stade-là, quel tout, mais en vérité, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que il serait intéressant d'intervenir dans l'hypothèse où la préfecture refuserait de donner raison à votre mari. Et donc dans ce cas-là, si c'est une réponse négative, elle sera accompagnée de ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, écoutez, monsieur, faut partir. Donc à ce moment-là, oui, vous pourriez éventuellement contester, puisque l'obligation de quitter le territoire, elle devra être motivé, c'est-à-dire que le préfet doit dire on veut pas pour telle ou telle raison. Mais en vérité, à ce stade-là, il n'y a pas de moyen, ne serait-ce que de se rapprocher de la préfecture, parce que j'avais presque peur pour leur dire quoi. Vous avez fait une demande, il y a un récépissé, et pour l'instant, ils sont carrés dans leur démarche. Je le redis, le récépissé, ça veut dire, écoutez, on examine votre dossier.
Oui.
Ouais, il y a pas de texte, il y a pas un article qui permettrait d'avoir une sorte de moyen de pression pour dire à la préfecture répondez-nous vite. Et d'ailleurs, je ne conseille jamais de
mettre la pression.
Ouais, de mettre la pression parce que vous pouvez toujours tomber sur un administratif un peu pénible qui dit bon, on va lui répondre vite et puis boum, vous recevez un coup de gourdin sur la tête et c'est une réponse négative. Donc tant que vous avez un récépissé, il y a quand même de l'espoir à ce niveau-là. Je le redis, après, si évidemment la réponse ne va pas dans le sens de monsieur, vous pourrez toujours le contester. Vous aurez un délai de 30 jours pour aller devant un tribunal administratif. Vous pourrez toujours faire ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire dire au préfet, écoutez, réexaminez mes éléments. Vous pourrez toujours faire un recours hiérarchique auprès du ministre. Donc, mais s'il y a un récépissé, ça veut juste dire, écoutez, on est en train d'examiner votre dossier. Donc, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de moyen pression particulier à faire à ce stade-là, en tout cas.
Justement, pour la première fois, quand il a fait le changement et après, direct, elle a refusé, on a fait tous ces ces démarches, c'est-à-dire on s'est rapproché on a fait un recours hiérarchique pour monsieur le ministre.
Ouais.
Il a répondu, alors il a demandé que les fiches de paye pour les 12 derniers mois. On a remis ces documents demandés. Et du coup, c'est-à-dire ils n'ont pas donné suite, c'est-à-dire ils sont repartis sur le même point du départ.
Je sais bien, non mais bien sûr, voilà. Vous savez, et il arrive même parfois, vous saisissez les préfectures et renseignements pris, on vous dit, écoutez, on n'a pas de trace de telle ou telle demande. Donc, mais ça, malheureusement, on est entre guillemets habitué à je vais pas utiliser le terme de mauvaise foi, parce que il peut aussi arriver que techniquement, vous faites une demande et puis c'est un administratif pas sérieux qui gère le dossier et puis ça disparaît dans la nature. Mais je vous le redis, la difficulté pour vous, c'est que si vous me dites qu'au moment où on se parle, un récépissé toujours en cours de validité a été remis à monsieur, ils sont entre guillemets dans les clous. C'est-à-dire que juridiquement, on n'a rien à reprocher à cette préfecture, même si j'ai bien compris que vous avez fait des démarches et en gros, vous avez l'impression de tourner en rond et de repartir à zéro. Donc c'est évidemment pénible. Mais le récépissé, c'est le propre du récépissé, ça signifie, écoutez, vous avez déposé un dossier, alors peut-être pour une deuxième fois, et ça c'est le côté pénible, moi, préfet, je suis en train de l'examiner, donc si dans le temps de ce récépissé, je n'ai pas eu la possibilité de vous répondre, il sera renouvelé, le récépissé. Et puis, si j'ai eu le temps de répondre, vous aurez effectivement, vous recevrez un courrier, alors positif ou négatif. Et puis, je vous dis, si c'est négatif, il faudra évidemment, dans les plus brefs délais, enfin, il y a un délai de 30 jours, mais il faut quand même faire vite, pour le contester. Mais à ce stade-là, je serais incapable d'abord de vous dire c'est de bon augure ou pas, j'en ai aucune idée. Vous savez, souvent on se dit que quand une réponse arrive trop vite, c'est souvent une réponse négative. C'est-à-dire quand la préfecture se dit le dossier ne tient tellement pas la route qu'on va répondre tout de suite, entre guillemets, pour s'en débarrasser. Mais si vous ont autorisé à relancer la machine et en plus à vous accorder un récépissé, et on est dans un domaine d'activité où effectivement il y a beaucoup de demandes, voilà, je crois qu'il faut quand même garder espoir en la matière.
D'accord. Et encore, on a fait la demande de nationalité parce que vu le communiqué de Madame la ministre de Citoyenneté, c'est-à-dire on a remis le dossier, nous ont donné un numéro d'enregistrement. Et du coup, est-ce qu'on peut attendre et espérer sur ce... sur ce plan-là, ou bien on va...
Non, mais ça, on ne peut pas, voilà. Avant d'être français, en tout cas de demander à devenir français, encore faut-il avoir un titre de séjour, comme dirait de Pérède. C'est-à-dire que quand la ministre dit, vous avez travaillé pendant le Covid, on va faire un effort pour que vous deveniez français, on parle quand même de personnes qui sont installées de manière assez durable sur le territoire français, donc qui sont en situation régulière depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour leur permettre à ces personnes-là d'accélérer la procédure. Mais, vous savez, moi j'ai même été contacté par des personnes qui sont en situation irrégulière et qui m'ont dit, est-ce que je peux devenir français parce que j'ai travaillé, mais d'abord travaillé de manière illégale, puisque si on est en situation irrégulière, on peut pas être déclaré officiellement. Donc non, ça ne concerne pas les personnes qui sont dans la situation de monsieur. Hein.
Mais on est régulier depuis 6 ans ici.
Mais vous avez qu'un récépissé depuis 6 ans ?
6 ans, exactement.
Ouais, mais encore une fois, le récépissé...
Pendant les 2 ans.
C'est quand même... Ouais, c'est quand même assez surprenant. Vous êtes de quelle nationalité ?
Algérienne.
Ah, c'est même inquiétant, parce que...
On a eu des titres 6 jours, des cartes. Et depuis 2017, mon mari, il se trouve avec des récépissés. Moi, en 2019, c'est à partir de 2019 que j'ai eu que des récépissés. Mais je n'avais que des 6 jours avant.
Et là, de toute manière, alors, il faudrait effectivement peut-être les interroger, c'est surprenant, on a l'impression qu'ils auraient quelque chose à vous reprocher depuis quelque temps, mais ça change rien sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous baladez avec un récépissé, demander la nationalité française à ce stade-là, ça passera évidemment pas.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Keltoum, hein, pour plus d'informations, vous pouvez appeler Maître Serran directement sur son numéro de téléphone portable. Maître Serran.
Exactement. Joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà. Et d'autres appels, d'autres questions juridiques à Maître Serran dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, précision importante, le Black Friday chez Maître Serran, c'est terminé, c'était la semaine dernière. Hein, c'était une offre réservée au week-end dernier, donc cette semaine, c'est plus Black Friday, donc vous êtes à... Oui, on vous entend, Maître Serran.
Ah bon, alors, je touche pas, mais en plus, je touche même pas.
C'est si, vous touchez.
Ah bon, je touche.
Vous touchez. Voilà, vous touchez le fil de votre micro.
Attends, c'est le fil du micro.
Bien, alors Maître Serran, on a Samir qui est avec nous au téléphone. Samir, bienvenue.
Allô ?
Oui, bonjour Samir.
Oui, bonjour Maître.
Bonjour Samir.
Bonjour, en fait, excusez-moi, en fait, moi aussi j'ai un problème en fait au niveau de la préfecture.
On vous écoute.
En fait, je suis marié avec une Française en fait depuis 2018, le mois d'août 2018. Mmh. Et en fait, toute cette période en fait, j'ai eu que des récépissés en fait. J'ai un enfant français.
D'accord.
Et toute cette période, en fait, j'ai eu que des récépissés. J'ai eu une carte de séjour de 1 an une seule fois, en fait.
Et vous êtes de quelle nationalité ?
Je suis algérien.
D'accord.
Ouais.
Donc une carte de séjour. Ensuite, pour le renouvellement, vous êtes resté qu'avec des récépissés ?
Ouais, ils m'ont renouvelé plusieurs fois des récépissés de 6 mois. Et en fait, il y avait plusieurs fois des retards. Ils m'ont laissé avec des récépissés périmés, en fait. Où ils m'ont donné, après j'ai même perdu une fois mon travail à cause de ça. Et après, ils m'ont donné une seule fois une carte d'un an et j'ai eu que ça en fait.
Alors c'est vrai qu'on a toujours du mal à comprendre ce type de raisonnement de la part des autorités préfectorales, et ce d'autant plus que souvent, quand on dit « je suis marié avec une personne de nationalité française », c'est le premier titre qui peut poser problème. Parce que la préfecture se dit « est-ce que ce serait pas un mariage que pour des papiers, hein, mariage blanc, mariage gris ?» Bon, là, vous me dites que vous avez un enfant. Je connais pas beaucoup de personnes qui décident de faire des enfants juste pour avoir des papiers. Donc, à partir de là, les autorités préfectorales devraient considérer que voilà, que vous êtes un couple, comme dirait l'autre, sérieux, et que ce n'est pas un mariage que pour les papiers. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous embête avec avec ces récépissés.
Excusez-moi, en fait, j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, avant que je sois régularisé, en fait, en 2016, j'étais avec une personne, en fait, que je suis resté avec elle un an. Et après, on s'est séparés, en fait, et c'est vrai que je l'ai appelé après au téléphone, et en fait, elle a déposé plainte et ils m'ont condamné.
Oui, enfin, donc, alors, à tous les auditeurs qui nous écoutent, essayez de tout me dire avant d'attendre mon petit poème. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire que. Vous savez que ça peut être un argument invoqué par les autorités préfectorales, ne serait-ce que pour d'abord refuser votre régularisation en considérant que il y a eu un moment une atteinte à l'ordre public. Et c'est la femme. Enfin, elle a dit quoi, que vous l'auriez frappé, oui, vous?
Non, c'était juste, j'étais condamné pour harcèlement des appels malveillants.
Ouais, bon, c'est...
Un mois ferme.
Ouais, c'est... Bon, c'est, encore une fois, la sanction en elle-même, c'est pas le truc qui va révolutionner votre vie, pénalement parlant, mais quand on est dans votre situation en délicatesse avec l'administration française, vous comprenez bien que les autorités préfectorales ont une exigence absolue à l'égard des étrangers. C'est-à-dire que si vous venez chez moi... et vous voulez travailler chez moi, je veux quelqu'un de définitivement propre. Et y a des infractions comme ça, des histoires de harcèlement, alors que ce soit sexuel ou pas, des histoires de violence, des histoires de drogue, entre guillemets, où ça passe pas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils vous font galérer. Donc, et sur cette base-là, quand bien même vous êtes marié avec une personne de nationalité française, quand bien même vous avez un enfant, ça reste, en plus c'est pas si vieux que ça, donc ça peut rester, ils peuvent vous embêter là-dessus. Alors vous embêter, ça voudrait dire vous refuser tout simplement un titre de séjour et vous inviter à quitter le territoire. Alors vous avez des arguments, c'est-à-dire que si demain c'est ce type de réponse qui devait vous être notifié, vous pourrez toujours le contester, vos arguments, le fait d'être marié, le fait d'avoir un enfant, évidemment ça pèse lourd, mais ça peut vous embêter pendant quelques temps quand même. Et ouais, c'est peut-être ça qui pèse, hein. C'est voilà, on n'a peut-être pas forcément envie, nous, administration française, de régulariser quelqu'un qui a été condamné, même si je le redis, c'est pas une condamnation dans l'absolu gravissime, mais le dossier est taché quand même.
Ouais, en fait, c'est parce que c'est pour ça, en fait, à chaque fois, je me présente à la préfecture, même si c'est pas obligatoire que ma femme elle se présente avec moi. Et ils l'ont appelé plusieurs fois, ils la prennent de côté.
Normal, oui, pour vérifier la réalité de... Bah, le raisonnement étant de dire, il était avec quelqu'un, voilà ce qui s'est passé, et puis il se remet avec une autre personne. En gros, on s'en fout de la femme, on s'en fout de l'enfant, juste pour des papiers, c'est ça le raisonnement. Donc évidemment, il va y avoir une enquête, comme vous dites, poussée, on va interroger madame pour voir si vous êtes un vrai couple... Mais ce qui fait tâche dans votre dossier, c'est évidemment cette condamnation.
D'accord, mais c'est-à-dire que je voulais faire une demande de carte de 10 ans, c'est pas la peine alors?
Ah non, là c'est plus que pas la peine. Donc là, il vaut mieux éviter. Vous avez la possibilité de demander l'effacement de votre casier judiciaire, ça peut aider aussi, puisque si un tribunal va dans votre sens et accepte votre requête en disant bon, on va effacer. Je veux dire, si la justice vous a entre guillemets pardonné à effacer, c'est toujours un argument supplémentaire si vous deviez vous retrouver devant un tribunal administratif pour dire attendez, moi la justice voilà m'a pardonné, j'ai fait des bêtises mais maintenant c'est pardonné, et donc c'est pas au préfet d'être plus royaliste que le roi. Mais faudrait peut-être penser à ça sérieusement.
Et excuse-moi, maître, au bout de combien de temps on peut faire cette demande, en fait ?
Bah, vous pouvez le faire au bout de, d'une année, à partir du moment où ça apparaît sur, sur votre casier. Vous avez été condamné quand ?
En 2017.
Bon, bah, vous pouvez diligenter la procédure. Et, après, je vous dis, il y a des... Vous savez, il y a des infractions qui marquent les esprits. Je le redis, on n'est pas dans le gravissime, vous avez tué personne. Mais tout ce qui est histoire d'harcèlement, alors que ce soit moral ou sexuel, je vous dis attouchement ou drogue, il y a des infractions comme ça qui où on a l'impression que l'administration ne pardonne pas et ne pardonnera jamais. Ouais, maintenant, on fait du droit. Voilà, c'est-à-dire que si vous obtenez l'effacement de cette mention. Alors, vous avez bien compris que l'argument n'est pas de dire au juge effacez ma mention parce que sinon je serai pas régularisé. C'est essentiellement pour des raisons d'activité professionnelle.
D'accord.
Ouais. Ouais, l'argumentation c'est plutôt ça, c'est dire j'ai n'importe quoi, je travaille dans tel secteur donc il faut un casier judiciaire propre. Je souhaiterais devenir français et donc évidemment si demain je travaille dans la fonction publique et quitte à dire des bêtises, à mentir, en tout cas il faut. Alors quand je dis mentir, il faut que le dossier soit solidement constitué pour que le mensonge puisse passer. Mais un tribunal n'efface pas un casier juste pour dire bah le pauvre, on va effacer le casier.
Ouais. Moi surtout, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais c'était en fait la condamnation, il y avait que des éléments à charge.
Et ouais, mais là, c'est terminé, c'est prononcé. Voilà, ça sert à rien de revenir là-dessus. Ça, c'est injouable. Hein. Ça se plaide pas devant une juridiction. Hein. Vous avez été condamné, si vous n'avez pas fait appel, elle est définitive, on n'en parle plus.
Ouais, c'est ça, je sais.
Bon. Voilà.
Bon, je vous remercie,
Je vous en prie, bon courage à vous.
Merci, Samir, pour votre appel.
Merci beaucoup, bon courage.
Alors, c'est Chaya qui est avec nous, Chaïma peut-être, on va voir. Bonjour.
Allô. Oui. Oui, bonjour, maître.
Bonjour. Quel est votre prénom, alors, précisément ?
C'est Chaya Fatima.
D'accord.
Chaya Fatima, je ne connaissais pas Chaya. Parce que c'est pas la demoiselle qui nous appelle, le prénom.
Le prénom, hein, voilà. Bon.
Ouais.
Enchanté.
Bon, de même.
Merci.
Chaya, on vous écoute.
Oui, je vous appelle par rapport à ma mère. J'ai ma mère qui vit à l'étranger, elle est toute seule. Mon père est décédé, ça fait 12 ans et demi. Et j'ai mes trois frères qui vivent ici en France. Ils sont de nationalité française. Et moi, je suis de nationalité italienne. Et on veut savoir si on peut faire quelque chose pour elle.
Alors, c'est une question qui est de plus en plus posée. C'est-à-dire que vous avez un ou les parents qui sont au pays et qui sont isolés parce que les enfants ont décidé de vivre à l'étranger, en France ou ailleurs. Et souvent, la question est posée de savoir est-ce que le ou les parents peuvent invoquer l'argument en disant... J'ai mes enfants qui sont sur le territoire français et par définition, j'aimerais venir les rejoindre. Alors, c'est un argument qui se tient. Ça veut dire que ça peut être invoqué, en particulier lorsque les enfants sont de nationalité française. Et là, c'est indépendamment du fait, est-ce que les parents seraient souffrants ou auraient besoin de se soigner. Ça, c'est autre chose, mais on parle de parents qui, alors sont, comme dirait l'autre, évidemment, par définition, âgés et donc un peu plus fragiles, mais on parle pas de parents qui auraient besoin de soins médicaux. C'est une procédure qui existe. Je le redis, c'est-à-dire qu'il faut que le ou les enfants puissent établir que les parents, si la France les autorise à venir sur le territoire français,
oui,
seront pris en charge par les enfants, vous voyez, parce que il est arrivé, c'est comme ça, que la France permette à un ou des parents de venir en France, et puis les enfants s'en occupent un an, deux ans, et puis au bout d'un moment, pour des raisons lambda, on veut plus s'en occuper, et quand on veut plus s'en occuper, les autorités préfectorales n'ont pas envie que ces personnes qu'on a autorisées à venir sur le territoire français deviennent un poids pour la société française. Donc c'est vrai que la préfecture est très pointilleuse là-dessus. Donc on va vérifier d'abord est-ce qu'il y a suffisamment de place pour accueillir là où les personnes. On va vérifier également si les enfants, enfin le ou les enfants qui décident de prendre en charge les parents ont une autonomie financière suffisante. C'est-à-dire que si le frère a une épouse et cinq enfants, vous voyez, ça met en doute un peu la possibilité pour qu'il puisse s'occuper sérieusement de sa mère ou de son père. Donc on va prendre tout ça en considération. Donc la place, évidemment. Et quand je dis la place, en règle générale, on demande une chambre seule. Vous voyez, on dit pas que la personne va dormir dans le salon ou avec les enfants. Donc, voilà, donc il faut une certaine superficie, donc à minima, encore une fois, 10-12 mètres carrés, en tout cas une chambre seule, parce qu'il y a des vérifications qui sont faites. Et il faut, encore une fois, que le salaire, les revenus de celui qui va accueillir sa mère, son père, permettent, en tout cas justifient une prise en charge du ou des parents. Donc, et il y a un contrôle qui est quand même drastique et important hein, par rapport à ça. Donc, il faut le faire sérieusement parce que, bien évidemment, si vous demandez un visa d'installation et que ce visa d'installation vous est refusé, et très souvent d'ailleurs, hein, il est refusé par les autorités consulaires, mais ça vaut toujours le coup de le contester quand on a un dossier qui est blindé. Voilà, si vous le contestez en disant que le type il vit dans un studio et il gagne à peine le SMIC, c'est pas la peine, vous voyez. Donc faut vraiment, voilà, c'est on joue toutes ces cartes du premier coup. Donc il faut bien préparer la situation, bien préparer le dossier avant de d'inviter votre mère à déposer une demande de visa long séjour.
Parce que j'ai mon frère qui a une vie stable, il a une maison grande. Il peut prendre ma mère en charge.
C'est encore une fois, voilà, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs frères, il vaut mieux s'adresser à celui effectivement qui a la capacité financière ou l'espace suffisant pour. Et, et dans ce cas-là, il peut évidemment formaliser le dossier et permettre à votre maman de déposer une demande de visa d'installation, donc un visa long séjour. Mais je vous le redis, il y a la place et il y a l'aspect financier aussi. Hein.
Oui.
Et puis, bon, ça je le dis pas, mais ça me semble évident, mais on va vérifier si votre frère a été un mec carré, pas de traces sur son casier judiciaire. Enfin voilà, hein, il y a aussi, donc il y a aussi ces aspects-là. Si il a pas été mis en cause par je sais n'importe quoi, s'il dirige une société, est-ce qu'il a pas eu de problème avec l'URSSAF, avec les impôts. Enfin voilà, il faut un dossier ultra propre. Et à partir de là, dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement formaliser le dossier avec l'enfant qui réunit le maximum d'informations positives.
Oui. On commence par la préfecture, c'est ça ?
Non. Si votre maman est au pays, et donc là, par définition, elle est au pays, ce sont les autorités consulaires. Et une fois que les autorités consulaires, si demain, ils l'autorisent à venir sur le territoire français, ensuite seulement, une fois qu'elle est en France, elle relèvera de la préfecture.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Chaya, merci pour votre appel. Si vous n'avez pas eu le temps de passer ce matin, vous pouvez toujours appeler Maître Serran à partir de maintenant à votre numéro portable, Maître
Absolument.
Serran.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et je vous donne rendez-vous demain entre 10h et 11h avec l'Islam au présent. Et c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera à votre même place, Maître Serran, à vendredi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.